Je vous salue encore au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais saluer particulièrement les mamans, je veux dire les femmes et les filles, en ce premier jour du mois de mars, le mois de la femme, et vous souhaiter toutes les meilleures choses pour toutes les manifestations que vous aurez pendant le mois, pour que ces manifestations vous rapprochent davantage du Seigneur. Pendant la semaine, nous avons été ensemble avec quelques gens pour réfléchir, et comme nous avons suivi le texte qui nous a été lu, c'est dans le cadre de la préparation de l'élection des diacres, chose que nous allons accomplir aujourd'hui. Nous avons, même notre étude biblique de jeudi était focalisée sur le même texte qui nous a été proposé aujourd'hui. Donc, pour clôturer ces enseignements, nous allons faire une récapitulation. Ce sera un résumé de ce que nous avons partagé pendant la semaine, pour que ceux qui n'étaient pas avec nous puissent aussi partager ça. Notre thème de ce matin est intitulé « Dans l'Église, maison du Dieu vivant, des diacres et des diaconesses solides ». Dans l'Église, maison du Dieu vivant, des diacres et des diaconesses solides. J'ai toujours dit que j'aime le ministère de la diaconie parce que lui, au moins, intègre tout le monde. Quand je réfléchissais sur la diaconie, l'idée m'est venue en tête aussi de réfléchir sur la vision de la CBK. La vision de la CBK dit que nous sommes transformés pour le changement par la parole et l'action. Là, nous avons deux composantes importantes, la parole et l'action. Et ces deux composantes de la vision sont complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui rend possible la transformation et le changement que nous souhaitons et qui permettent à l'Église de remplir la mission intégrale. Donc ces deux composantes sont inséparables. C'est comme deux faces d'une pièce de monnaie ou d'une médaille. Et même dans le ministère de Jésus, nous voyons toujours les deux composantes aller de pair, la parole et l'action. En lisant le texte qui nous est proposé, comme nous avons dit, il s'agit de l'institution de la diaconie dans l'Église. Ce ministère, pour une Église maison de Dieu vivant, a besoin de personnes et prise avant tout de service. La diaconie, donc, comme nous l'avons entendu, c'est le service. Nous avons donc besoin de personnes et prise avant tout de l'esprit de service, au-delà de leurs origines linguistiques, ethnique, sociale, etc. Ils ont comme seul objectif de servir. Voilà donc ce qui fera le centre de notre réflexion de ce matin. Et nous allons l'aborder sous trois volets. D'abord, nous allons essayer de comprendre le concept de diaconie, avoir une compréhension commune du concept de diaconie. Nous allons ensuite réfléchir sur le rôle et le profil des diacres et des diaconesses. Et pour terminer, nous allons voir quel est l'impact du ministère de diaconie au sein de l'Église et en dehors de l'Église. Nous commençons donc par cette compréhension de la diaconie. Quand j'ai commencé à travailler au département, j'ai voulu savoir ce que les diacres eux-mêmes pensent de leur ministère et ce que les fidèles pensent de ce ministère. Et en faisant le tour des postes de la CBK, il y a deux choses qui revenaient souvent, à savoir faire asseoir les gens à l'église et compter les offrandes. Mais le récit des Actes des Apôtres nous présente un ministère beaucoup plus vaste. Nous sommes ici dans un contexte de vulnérabilité où certaines personnes, membres à part entière de l'église, sont marginalisées à cause de leur appartenance linguistique. Les hellénistes, c'est-à-dire les Hébreux de la diaspora, si on peut les appeler ainsi, ceux qui parlaient le grec. Leurs veuves sont donc discriminées. Quand nous avons lu ce passage, je me suis demandé si elles étaient réellement discriminées ou si ce sont les hellénistes qui ont senti que leurs veuves étaient discriminées. Mais le texte dit parce que leurs veuves étaient négligées. C'est même très fort, pas seulement discriminées. Mais les disciples ont bien compris l'importance que Jésus accorde au service auprès des vulnérables. Cela, il l'a fait même quand il a défini son ministère. Quand nous lisons Luc, chapitre 4, du 18e au 19e verset, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà, c'est par là qu'il commence. Les vulnérables. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez que les cibles de son ministère sont bien les personnes, les cibles de son ministère, qui, quand il le définit ici, sont bien les personnes vulnérables. Alors, fort de cette compréhension, les disciples prennent donc une décision forte de changer profondément la structure de l'Église pour créer un nouveau ministère afin de rendre le service plus efficace. Mais disons qu'en écrivant ce récit, l'importance n'est pas sur la polémique. Luc ne veut pas créer une polémique sur le tribalisme ou je ne sais pas quel autre aspect, mais il veut plutôt édifier l'Église. Il cherche à montrer que dans la maison du Dieu vivant, malgré quelques dysfonctionnements, il y a de la place pour tous. Donc, le contexte de vulnérabilité ici et les dysfonctionnements qui peuvent apparaître dans l'Église primitive sont les mêmes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais Luc veut montrer que malgré ces dysfonctionnements, dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tous, sans distinction de race, de sexe, d'âge ou de rang social. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Le contexte de dysfonctionnement reflète le contexte que nous traversons. Si nous parlons des vulnérables, ils sont bien nombreux autour de nous, peut-être même plus qu'il y en avait à ce moment-là. Nous avons parlé des veuves, mais les veuves sont là aussi, les orphelins, les réfugiés, les victimes de violences sexuelles, les enfants nés de viols, les albinos, les victimes de catastrophes naturelles, les prisonniers, la liste est longue. Nous en avons beaucoup de groupes, nous avons des groupes marginalisés autour de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour eux? Est-ce que nous savons même où ils se trouvent? Est-ce que nous savons combien d'aveugles se trouvent dans notre quartier? Est-ce que nous savons combien de sourds-muets se trouvent dans notre quartier? Est-ce que ces sourds-muets ont aussi besoin de la parole de Dieu, comme nous? Je disais dans le séminaire que la télévision nous a devancés, parce qu'eux commencent même à prévoir l'interprétation pour les sourds-muets quand ils donnent les informations. Mais nous, pour notre message, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, s'il y avait un sourd-muet ici, il serait en train de se demander qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire là. Et personne ne se soucierait de lui. Et même les dysfonctionnements dont nous parlons, est-ce qu'ils ne sont pas dans notre structure en tant qu'Église? Je suis bien content pour cette paroisse parce que dans notre plan de construction du temple, nous avons tenu compte des enfants. Mais je suis passé dans plusieurs paroisses où les enfants suivent les enseignements de l'école de dimanche sous un arbre, pendant que les adultes sont bien assis dans le temple, et ce qu'ils discutent, c'est de voir comment ils vont améliorer les sièges. Donc, nous ne pouvons pas dire que ces dysfonctionnements ne sont pas là. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Cela nous amène au deuxième point. Quel est le rôle? Qu'est-ce que nous attendons des diacres? Et quel est leur profil? Bien sûr, il y a des initiatives timides pour venir en aide aux vulnérables. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un contexte de crise et de vulnérabilité très avancée. Mais parfois, ces initiatives ne sont pas bien coordonnées. Et à la fin des comptes, ils n'aboutissent pas aux résultats escomptés. Pourquoi? Parce que quelquefois, on a tendance à penser qu'on ne peut aider que par des moyens financiers ou matériels. Alors que peut-être beaucoup de gens ont besoin tout simplement d'orientation ou d'être écoutés. Je sais que dans cette salle, si on pouvait voir ce qu'il y a dans la tête de chacun, beaucoup d'entre nous seraient prêts pour le centre de santé mentale. Les problèmes sont nombreux et nous venons parfois avec nos problèmes et nous rentrons avec ça. Quelqu'un peut voir des gens en voiture, en veste, et croire qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont à l'aise, qu'ils n'ont pas de problème. Mais je disais l'autre jour que nous avons beaucoup de gens qui peuvent même être en voiture, sans que cela constitue la joie. Mon professeur m'avait dit, il avait l'habitude de nous dire que si vous voyez deux personnes le dimanche dans une voiture sans se parler, c'est qu'ils sont mariés. Un autre aspect, c'est que le plus souvent, on ne donne pas l'occasion aux vulnérables de s'exprimer. Nous nous imaginons que nous connaissons leurs besoins parce qu'ils sont faibles. Et alors, nous cherchons à répondre à des besoins que nous ne connaissons pas. Ce dont nous avons besoin, c'est une diaconie participative et autonomisante, empowering, comme disent les anglophones, qui rend la personne, une diaconie qui apporte un changement dans la vie des bénéficiaires. Nous devons aider le bénéficiaire à identifier lui-même ses besoins, mais aussi identifier les ressources qui peuvent être à sa disposition pour qu'il puisse contribuer à son propre bien-être. Dieu a donné à chacun de nous une capacité. Il n'y a personne que Dieu a créé sans une capacité quelconque qui peut l'aider à contribuer à son bien-être, quel que soit le niveau de vulnérabilité. Ce que nous visons donc dans la diaconie, c'est le service qui apporte le changement. C'est pourquoi nous disons que la diaconie est la partie de l'évangélisation qui se fait par les actes. Les diacres, nous n'avons même pas besoin de nous retrouver à la chair. Prenez l'exemple de Dorcas dans les Actes des Apôtres. J'ai donné encore cet exemple mercredi passé en disant, j'ai lu et relu le passage des Actes des Apôtres, chapitre 9, où on parle de Dorcas. Je n'ai pas vu une seule parole qu'elle a prononcée. J'ai vu seulement ses actes parler pour elle. Les veuves qui présentaient les vêtements. La question que je peux me poser, aujourd'hui dans mon quartier, qu'est-ce que les veuves, qu'est-ce que les orphelins peuvent dire de moi si je mourais? Qu'est-ce qu'on peut présenter? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de moi? Qu'est-ce que les gens peuvent présenter si je mourais aujourd'hui? Mais en fait, qui doit faire la diaconie? Parce que vous pouvez me dire, je ne suis pas diacre. Qui est-ce qui doit faire la diaconie? Lorsque Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il insiste sur le mot, leur enseignant à observer tout ce que je leur ai prescrit. Qu'est-ce qu'il leur a prescrit? C'est justement le ministère qu'il a annoncé en commençant, c'est justement la diaconie qu'il a annoncé en commençant son ministère. Nous sommes donc tous appelés à faire la diaconie. Nous sommes tous des diacres. Le groupe des gens que nous allons élire sont des gens qui vont coordonner notre travail. Ce sont nos leaders dans le domaine de la diaconie. Et le leader ne travaille pas. Il coordonne le travail. C'est donc nous qui sommes appelés à faire la diaconie. Il coordonne, il va seulement coordonner notre travail. Alors il ne faut pas chaque fois dire, j'entends souvent dire, les diacres de notre paroisse ne font rien. J'entends ça souvent dans les paroisses où je circule. Non, ce ne sont pas les diacres qui ne font rien. C'est-à-dire, les fidèles, en ce moment-là, nous dirons que les fidèles de cette paroisse ne savent pas qu'ils sont diacres. Et la diaconie doit même commencer à la maison. J'aime bien l'exemple de la femme sunamite dans le deuxième livre de Rois. Là, nous avons une jeune dame, elle n'est pas pauvre. La diaconie n'est pas seulement pour les pauvres. Celle-ci est bien riche. Mais écoutez ce qu'elle dit à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. C'est une dame qui a compris que le serviteur de Dieu a besoin d'être accueilli chez elle à la maison. Et vous voyez la façon dont elle prépare la chambre, c'est vraiment moderne. Au village, là où nous circulons, bon, si nous avons la chance d'avoir ça tous les jours, c'est très bien. Mais cette dame nous montre déjà le début de la diaconie orientée vers le développement. Parce que la chambre ici, la façon dont elle est préparée, c'est déjà le développement. Et je crois que c'est de là que la CBK a pris l'initiative de parler de diaconie et développement, qui sont en fait aussi deux volets du même travail et qui sont sous la responsabilité de la même équipe. Parce que quand nous parlons des diacres, et quand, comme je disais que les amis de certaines paroisses disent que les diacres ont pour rôle de gérer les biens d'église, Je leur pose alors la question, d'où viennent ces biens? Qui doit amener ces biens? Ça signifie que cela leur donne aussi le travail de mobilisation. Le diacre est donc un mobilisateur, mobilisateur de ressources. Et quand je dis ressources, je veux dire ressources non seulement financières et matérielles, mais aussi humaines. Nous avons à contribuer à l'évangélisation par nos actions sociales. Nous devons mobiliser les ressources humaines, les ressources matérielles. Je disais le mercredi la fois parce que nous, les diacres, nous sommes des chasseurs. Quand on va à la chasse, il y a des gens qui vont circuler, faire du bruit. Bon, vous qui avez grandi en ville, vous ne savez pas comment ça se passe. Mais il faut faire deux équipes. Il y a des gens qui vont passer dans la forêt en train de faire du bruit et les autres qui attendent pour attraper le gibier. Alors, nous, à travers notre travail social, nous circulons dans le quartier. Nous allons même dans les bars parce que nous pouvons nous éclipser là facilement. Parce que si le pasteur va là-bas, ce sera un problème. Mais nous allons là-bas non seulement pour faire ce qui s'y passe, mais pour recueillir les gens qui sont là pour dire « J'ai quelqu'un qui peut t'aider mieux que là où tu es en train de venir ici. » Alors nous l'amenons chez le pasteur pour dire « Voilà le gibier, occupez-vous de lui. » C'est ça, nous serons en train de faire l'évangélisation. Nous avons des voisins, peut-être des cousins qui sont sorciers. Il ne peut pas me tuer parce qu'il est mon frère. Mais je vais aller chez lui et je vais l'amener chez le pasteur pour dire « Voici celui qui connaît ce que tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire. » Voilà donc là où nous contribuons à l'évangélisation, à la mobilisation des ressources humaines aussi. Mais aussi nous devons contribuer à la mobilisation des ressources matérielles. Et là j'aime bien prendre l'exemple de Néhémie, le mobilisateur par excellence. Sa mobilisation commence au plus haut niveau et va jusqu'au niveau le plus bas. Il commence par le roi, il va jusqu'au gouverneur, il va jusqu'au sacrificateur, il va jusqu'à... Tout le monde est mobilisé pour participer au travail. Peut-être non seulement ses amis, mais aussi même ses adversaires. Tous sont mobilisés. Malheureusement, dans la CBK, lorsque nous avons commencé la MGR, on a souvent parlé de MGR, c'est-à-dire mobilisation et gestion de ressources. Mais nous sommes limités au recouvrement. La mobilisation, ce n'est pas seulement le recouvrement. Il y a beaucoup plus que ça. La mobilisation consiste à savoir aussi comment les gens vont trouver l'argent que nous allons mobiliser. Il ne suffit pas de dire aux gens « amenez l'argent ». Il faut les aider à trouver aussi cet argent-là. Cela fait partie de la mobilisation. Donc nos diacres ont besoin d'initiatives qui peuvent nous permettre, nous, de faire le travail de diaconie. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas eux qui vont financer l'église à eux seuls. Je sais que dans certaines églises, quand j'étais à Dar es Salaam, les gens avaient peur d'être élus comme anciens de l'église. Parce que le jour de la mobilisation, on commence toujours par les anciens. On dit « qu'est-ce que vous dites ?» Alors les gens ont peur. Mais ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est de nous mobiliser, nous, à faire ce travail-là. Et même les vulnérables peuvent être associés à ce travail-là et devenir des diacres. Je vais vous donner deux petits exemples. Dans la Bible, Naaman est lépreux. C'est un patron. C'est un général. Mais qui est-ce qui facilite sa guérison? C'est l'esclave, la jeune fille. Lorsqu'on lui donne l'occasion de parler, elle trouve la solution qui va aider son patron devenu maintenant vulnérable. Donc, ce ne sont pas seulement les vulnérables qui sont les bénéficiaires de la diaconie. Ils sont aussi des ils peuvent aussi contribuer à la diaconie. Si on n'avait pas écouté cette jeune fille, Naaman aurait encore sa lèpre jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé un autre exemple dans deux rois avec les lépreux. Lorsque la ville était menacée par les Syriens, les lépreux qui sont marginalisés, qui sont en dehors de la société, ils vont découvrir que les Syriens ont fui et qu'il y a de la nourriture. Et pendant ce temps dans la ville, les gens crèvent de faim. La Bible dit que les gens ont même commencé à manger leurs propres enfants. Mais écoutez ce que les aveugles se disent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas, ils sont déjà rassasiés. Hein? Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ça c'est 2 Rois chapitre 7 au verset 9. Ce sont donc ces gens qui sont marginalisés, qui sont en dehors de la société, qui vont sauver la vie de ceux qui se croyaient en sécurité en s'enfermant dans leur maison. Donc nous avons besoin de faire participer tout le monde à la diaconie. Mais quel est le profil de ces diacres? Le verset 3, dans le passage que nous avons lu, nous donne déjà trois critères. Quand on a élu les premiers diacres, un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit et être sage. Ce témoignage, qui est-ce qui doit le donner? Mais ça doit commencer par moi-même. Il ne faut pas que je me présente et dire, bon, je vais voir ce que les gens disent de moi. Je dois d'abord savoir ce que moi-même, je pense de moi-même. Quel est mon témoignage par rapport à moi-même? Est-ce que je me sens prêt? C'est-à-dire, est-ce que je sens la vocation? Est-ce que je me sens appelé à rendre ce service? Le deuxième témoignage, c'est celui des autres. Ce que les autres disent de moi. Hein, j'ai toujours dit, si je mourais aujourd'hui, je sais qu'il y aura un moment pour Neno Lajama. C'est ça, non? Et en ce moment-là, on va présenter les choses. Pour lui, c'est là que vous voyez, il a travaillé dans la CBK, il a été au département, il a été missionnaire, il a été ceci, c'était le meilleur, ainsi de suite. Mais je me pose souvent la question, est-ce que ma femme ne sera pas en train de dire « Mungejua » ou « mes enfants » Qu'est-ce que les autres disent de moi? C'est ça. Et le troisième témoignage, c'est celui de Dieu. Quand nous prenons l'exemple de Job, Dieu qui dit à Satan, « Tu as vu mon serviteur Job. » Est-ce que Dieu est capable de dire, « Tu as vu mon serviteur Paul ici ?» Et c'est ça la question que chacun de nous peut se poser. Parce que nous pouvons, tu peux apparaître, notre témoignage peut être bon, mais Dieu voit plus loin que ça. Et là, c'est un secret avec lui. Est-ce qu'il est capable de dire à Satan, « Tu as vu... ma servante dans la chorale, la, c'est pas éclat d'adoration. Excusez-moi, la tête commence à vieillir. Voilà donc le témoignage dont nous avons besoin. Mon témoignage, le témoignage des autres et le témoignage de Dieu. En lisant 1 Timothée 3, 14, 15, nous voyons aussi que Paul renchérit le critère de bonne conduite éthique à tenir dans la maison de Dieu vivant. C'est-à-dire le savoir-être, le savoir-vivre dans la communauté chrétienne. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès de vin, des gains sordides. Oui, ils doivent être honnêtes, parce qu'il y a aussi un défi. Nous avons dit, il y a la mobilisation des ressources, mais là, il y a aussi la gestion des ressources. Et nous avons besoin de gens honnêtes pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation comme Gehazi, le serviteur d'Élisée. Élisée qui a dit, j'ai fait le travail, je ne veux pas qu'on me paye, parce qu'il a guéri Naaman. Mais Gehazi dit, mais ce monsieur veut faire passer une occasion. C'est le moment de se retrouver. Et voilà, la conséquence, c'est qu'il hérite de la lèpre d'autrui. Et l'autre diacre, Judas Iscariote, qui veut profiter de l'occasion. Lui aussi, c'est celui-là, j'ai toujours dit, c'est celui-là qui fait notre honte, nous les diacres. Nous connaissons tous l'histoire. Quel est donc l'impact de tout cela, de la diaconie dans l'Église? Au verset 7 que nous avons lu, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. En fait, le premier verset commence par l'Église qui commence à grandir. Et le dernier verset reprend la même chose. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Contrairement donc à ce qu'on a toujours fait de considérer la diaconie comme une roue de réserve, celle-ci constitue un maillot important dans la chaîne pour booster l'œuvre de l'évangélisation. Pour que l'Église remplisse sa mission prophétique, elle doit avoir à son sein des dirigeants qui savent bien se conduire dans la maison de Dieu et qui comprennent qu'ils servent Dieu de la vérité, mais aussi qui confessent fermement la vérité de l'évangile intégrale dans le vécu quotidien. C'est ça la mission intégrale. Je voudrais terminer en encourageant l'équipe que nous allons mettre sur pied aujourd'hui en disant que vous avez fait le beau choix, celui de servir pour la gloire de Dieu vivant, dans la maison du Dieu vivant. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez transformer des vies pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous rende fort et solide. Amen.
Si tu veux le louer, sache. Je veux te louer.